de notre présentation, faire grève dans une maison de retraite, un conflit imbriqué dans la relation de service et les rapports de pouvoir. Je voudrais souligner aussi la participation d'Elsa Galran, qui a participé aux entretiens, à la collecte et qui est associée au projet. C'est un projet, en fait, on vous présente une analyse préliminaire de résultats d'une enquête de terrain qui a été menée au Québec cet été, cet automne, l'automne 2016, c'est-à-dire. Et ça s'inscrit dans un projet plus large d'une équipe franco-québécoise qu'on est en train de, qu'on a constituée, qui commence à faire ce travail sur, en fait, le travail, l'emploi, la représentation collective dans le travail du CARE, en particulier dans les maisons de retraite et dans l'aide à domicile. Et donc, c'est notre premier terrain ensemble. Et quand les collègues sont arrivés cet été, en juillet, de la France au Québec, on leur avait organisé une grève pour que le terrain soit fertile. Et donc, une grève dans 40 résidences, maisons de retraite privées pour personnes âgées. On fait bien les choses, n'est-ce pas? Et pour avoir un terrain. Donc, on a préparé. Mais c'est un hasard, une coïncidence merveilleuse. Et donc, je vous présente rapidement des éléments avant que Sophie enchaîne. On a analysé cette grève historique, pionnière, donc, dans les maisons de retraite privées pour personnes âgées. Le privé, c'est 70 % des places en hébergement pour personnes âgées au Québec. Hein. Donc, c'est plus qu'en France, même si ici, ça semble bien parti pour la privatisation. Bon, ça, alors, la grève, elle a impliqué quelques 2500 salariés dans une quarantaine de maisons de retraite privées, une quinzaine de villes au Québec. Et la durée de la grève, en moyenne, c'est 46 jours. Donc, c'est une grève très importante, historique, dans le secteur où les salariés sont en majorité des préposés aux résidents, qui sont comme des aides-soignants, qui ont une qualification moindre, en tout cas, que les aides-soignantes, mais des travailleuses majoritairement femmes, précaires. Et j'y reviendrai. Le lien avec le colloque, la problématique du colloque, eh bien, c'est que ce conflit, cette grève apparaît comme un révélateur des rapports sociaux de sexe, de racisation, de classe imbriqués qui traversent la relation de service dans les maisons de retraite privées. Donc, c'est un révélateur de la dynamique de ces rapports imbriqués, des rapports de pouvoir qui expliquent les difficultés dans la mobilisation dans un secteur que je vais décrire rapidement, mais des rapports de pouvoir imbriqués aussi qui sont contestés à travers cette mobilisation. Dans le cadre d'une grève qui ouvre un espace d'expression explicite, mais aussi implicite, où est mise en lumière cette domination. Donc, ou une partie du moins de la domination qui est mise en lumière. On a enquêté donc à partir d'entretiens, mais aussi d'observations directes de piquets de grève, parce qu'on a eu la chance d'arriver pendant la grève, on peut étudier une grève après souvent, mais là, c'était une chance incroyable, au mois de juillet en plus. On a assisté aussi à des assemblées syndicales. On a fait des entretiens, on analyse de contenu documentaire, évidemment, et de conventions collectives, surtout sur le plan des salaires. Je voudrais en venir tout de suite, au cas où je manquerais de temps, au cadre institutionnel des relations collectives du travail au Québec, parce qu'il est très différent de celui en France, mais ce qu'on voit, c'est que quand même, on trouve que la comparaison est très, très, très intéressante, très riche néanmoins, parce que quand même, le phénomène des résidences privées, des maisons de retraite privées, de la précarité, etc., c'est commun dans les deux, France et Québec. Donc, mais il faut quand même comprendre que, c'est le cadre institutionnel, il est aussi empreint des rapports de pouvoir imbriqués. Le cadre, la régulation du travail, la régulation juridique, on a une régulation qui a été forgée en fonction d'un modèle industriel, de la grande entreprise intégrée, où les travailleurs sont majoritairement masculins, natifs, etc. C'est pas une régulation juridique, un encadrement donc du droit à la syndicalisation, représentation collective, qui est fait pour les services, pour le type d'organisation où il y a des grandes entreprises, des filiales, etc. Donc, et des plus petites unités de production que la grande entreprise Ford. Donc, on est et ça s'applique difficilement, ce cadre-là, dans le contexte des services et du travail précaire. Et donc, on a une représentation collective au Québec qui est un système qui est, qu'on dit, décentralisé, comme dans toute l'Amérique du Nord. Et donc, la représentation collective ne se fait pas au niveau de la branche, mais prioritairement et essentiellement au niveau de l'établissement. Il y a dans le secteur public une négociation évidemment du sectoriel, dans la branche publique si vous voulez, mais dans le privé, sauf de rares exceptions, c'est vraiment établissement par établissement. On n'a pas de pluralisme syndical non plus, c'est-à-dire que il y a un syndicat par boîte quand on réussit à syndiquer. C'est très difficile de syndiquer dans le secteur, mais voilà, c'est un syndicalisme majoritaire sur la base de cartes d'adhésion, d'une majorité d'adhérents qui vont faire en sorte que 50% plus un des salariés vote pour un syndicat. Le syndicat rentre et il est le seul. Il représente l'ensemble de l'unité. Et dans le secteur tertiaire privé, Elena Errata nous disait hier comment, nous parlait de la croissance de ce secteur, des emplois, de la contribution à l'économie. Mais en termes de syndicalisation, c'est très faible. Donc, on a, par rapport à un taux de syndicalisation de près de 40% au Québec, seulement, 20% dans le secteur des services privés de syndicalisation. Dans le secteur public, c'est 75% de syndicalisation. Et en plus, les femmes sont moins syndiquées que les hommes dans les services privés, 18% au Québec par rapport à 22% chez les hommes. Et pourtant, un secteur en croissance. Donc, défi pour les syndicats d'aller dans ce secteur. Et sur 1800 résidents maisons de retraite privées pour personnes âgées, 16 au Québec, 1800, il y en a 1800 qui appartiennent à des entreprises familiales ou à des grandes entreprises dans l'immobilier, on a 16% d'entreprises syndiquées, où il y a un syndicat. Donc, où on négocie une convention collective, et donc c'est pas les lois minimales du travail seulement qui s'appliquent et les politiques de gestion. Donc, en plus d'avoir seulement 16% d'entreprises syndiquées, le syndicalisme qui est pratiqué était un syndicalisme d'affaires, un syndicalisme plutôt axé sur la négociation, la défense de la convention minimalement, mais très restreint au cadre juridique, à un syndicalisme qui n'est pas de contestation. Mais là, et Mathieu Clay va en parler, on a aux États-Unis, eu des mouvements avec un syndicat, le Service Employees International Union, qui a lancé une campagne pour augmenter le salaire à 15 $ de l'heure. Et ça a eu une influence au Québec, parce que le syndicat majoritairement présent dans les résidences, maisons privées pour personnes âgées, est affilié. C'est un syndicat qui avait une tradition d'affaires, le Syndicat québécois des employés de service, mais il est affilié, comme d'autres syndicats, au CIU aux États-Unis. Hein, parce qu'on a eu des syndicats américains qui sont venus au Québec, au Canada, pour essayer de s'implanter. Et donc, on a certains syndicats affiliés. Pour une fois, on a eu une influence très positive des États-Unis avec ces campagnes de mobilisation dont parlera Mathieu. Mais donc, cette campagne pour le 15 $ de l'heure, qui signifie pour les travailleuses des résidences syndiquées qui étaient en grève, une augmentation qui aurait signifié une augmentation de 24% de leur taux horaire. Donc, c'était très ambitieux. Ça a été la revendication au cœur du mouvement de grève. C'est extrêmement ambitieux. Donc, déjà, ça détonne avec le syndicalisme d'affaires auquel on était habitué, n'est-ce pas? Mais un 15 $ qui s'inscrit dans une campagne aussi contre les inégalités de revenus, etc. Il me reste combien de temps? Ah, ben c'est bon. Alors, ce que je voudrais vous présenter, je tenais à vous présenter le cadre institutionnel, le cadre différent au Québec. Donc, c'est un secteur, le secteur des résidences privées pour personnes âgées dominé par des grandes entreprises où les salaires horaires, le taux de salarial horaire moyen là dans les entreprises qui ont fait la grève, où il y a eu grève, c'est 8,50 € de l'heure. Donc, pour le premier échelon des préposés aux résidents. Donc, des grandes entreprises qui misent sur des coûts minimaux de main-d'œuvre où la majorité sont des femmes, donc préposés aux résidents, mais il y a aussi des infirmières auxiliaires, des gens à la maintenance. Et dans les grandes villes, la majorité de la main-d'œuvre est composée de femmes racisées, immigrantes de première, deuxième génération provenant d'Haïti en majorité. Et qui, les emplois sont très temps partiel, sur appel, etc., très précaires, avec une charge très lourde de travail. Et il y a vraiment cette imbrication des rapports sociaux qui s'exprime à travers, si vous voulez, le schéma de la vocation qui est très présent dans la société, mais qui est très présent dans le milieu, dans la relation de service, évidemment, je ne pourrais pas le décrire ici, mais qui, voilà, qui est des faibles marges de manœuvre pour ces travailleuses pour trouver autre chose. Il y a la contrainte à occuper ces emplois est très présente puisqu'il y a difficulté, taux de chômage très élevé pour les personnes noires immigrantes et les personnes qui n'ont pas nécessairement de diplôme. Et, bon, sans parler des contraintes, comment s'expriment aussi les rapports imbriqués dans les syndicats eux-mêmes. Alors, je laisse la parole à Sophie.
Merci. Alors, on ne va pas revenir ici sur toute la phase de préparation de la grève qui a été très longue et qui a nécessité toute une réflexion syndicale, puisque c'est un sujet en soi sur lequel on pourra discuter ensuite si vous le voulez, mais il nous semblait plus intéressant de venir plutôt sur les difficultés rencontrées pendant l'expérience même de la grève et de saisir cette grève, comme l'a dit Louise, comme un révélateur, comme un moment où, de façon très matérielle, très pratique, finalement, se révèle l'intrication de ces rapports de domination. Et parmi les difficultés qui ont été ressenties, vécues pendant l'exercice de la grève, il y a un point qui nous a beaucoup intéressé et qui nous a semblé concentrer beaucoup de choses, c'est la question d'assurer les services essentiels. C'est comme ça qu'on les dénomme au Québec. Donc services essentiels auprès des résidents, dans les résidences de personnes âgées. Donc ce secteur tombe sous le coup d'un décret qui existe au Québec, hein, qui, s'il y a mise en danger de la santé des résidents, voire de la sécurité publique, une obligation hein, d'assurer bon, un service minimum ou continu. Le syndicat qui organisait la grève n'a pas fait le choix de contester ce décret. On pourra y revenir là aussi sur en termes de stratégie syndicale. Mais donc, c'est à accepter ce cadre juridique qui oblige donc 90% des salariés doivent être maintenus hein, par quart au travail, ce qui fait que ça réduit le temps de grève, je vais très très vite, mais pour vous expliquer un petit peu le cadre, à 10% du temps de travail. Hein, on peut faire grève que sur 10% de son temps de travail, ce qui faisait environ 45 minutes par jour pour les salariés. C'est-à-dire que pendant ces 45 minutes, ces salariés, je vais y revenir tout à l'heure, ils ont le choix. Il faut qu'ils arrêtent de travailler, ça ils sont obligés, hein, puisque la grève a été votée. C'est différent avec la France, ils sont obligés. Soit ils vont aux salles des personnels, ils se reposent, soit ils mettent le t-shirt avec la revendication 15 $ de l'heure et ils sortent sur le piquet de grève hein, pour manifester qu'ils sont en grève et qu'ils sont d'accord avec ce que porte le syndicat. Alors, un des problèmes, ça a été justement de dire, bah, pendant ces 45 minutes, ces 10% du temps de travail, quelles sont les tâches que l'on ne fait pas hein, quelles sont les tâches que l'on ne fait pas? Alors, cette détermination des tâches, elle est soit négociée avec l'employeur, hein, soit il y a conflit, ils ne parviennent pas à la négocier, et du coup, il y a un recours au tribunal du travail, je vais vite là aussi, tribunal, pour qu'il va trancher sur ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Alors, quelque part, ce qui nous intéresse aussi là, et qu'il faut qu'on creuse, c'est que cette élaboration de la liste des tâches à ne pas effectuer, quelque part, elle est extérieure aux salariés, hein, c'est le syndicat qui l'a porté, et ça renvoyait à des choses comme ne pas laver tous les jours le sol, faire moins souvent les lits, servir moins de repas, servir les repas avec des assiettes en carton, des choses comme ça en fait. Si ce n'est que ce qui nous a intéressé, c'est de voir comment les salariés et travailleurs du secteur se sont appropriés cette question. Et ce qui est ressorti à la fois des discussions sur les piquets de grève et puis dans les entretiens qui ont été faits pendant la grève et après, c'était justement la difficulté à accepter de ne pas faire certaines tâches. De se dire, ben finalement, dans notre travail de relation aux personnes âgées, dans ce travail de soins à autrui, c'est pas sécable, c'est un ensemble. C'est un ensemble de tâches que l'on effectue et finalement des difficultés quelque part à lâcher prise par rapport à ce qui était demandé. Et ainsi, il y a beaucoup d'énergie qui a été consacrée par les conseillères syndicaux qui suivent la grève, par les présidents de syndicats pour essayer de convaincre les salariés de ne pas faire hein, 10% de ne pas faire ces tâches, puisque quelque part, ça revenait à faire la grève, mais faire tout le travail en moins de temps, en 45 minutes en moins, qui quelque part était en étant moins payé, puisqu'on ne sont pas payés pour le temps de grève, qui quelque part était un cadeau fait aux directions d'entreprise, qui mettait évidemment le syndicat en très grande difficulté, hein, puisqu'on peut faire les mêmes tâches en moins de temps. Juste pour vous expliquer, pour un petit extrait très rapide d'entretien, une des préposées qui nous dit on allait plus vite et des fois les 43 minutes n'étaient pas vraiment respectées. On grignotait un peu sur les 43 minutes de grève parce qu'il fallait qu'on finisse les tâches. On vous dit c'est ça les services essentiels. Vous ne pouvez pas laisser les résidents sales, il faut les nourrir. Qu'est-ce qu'on va couper? Ils nous avaient demandé de ne pas faire les lits. Est-ce que ça prend 43 minutes de ne pas faire les lits? Donc, un excellent entretien, on en a plein qui vont dans ce sens-là, qui montrent les difficultés à segmenter les tâches, donc qui sont vécues comme un ensemble, faisant sens pour prendre soin d'autrui, aussi bien les tâches ménagères que les tâches qui impliquent du soin, en fait. Donc ça, c'est aussi intéressant, pas dissocier, et c'est le cas aussi parce que le métier de préposé, il recoupe un petit peu des activités de soins, des activités de ménage. Et puis, au travers de ce qui est exprimé, au travers de ces difficultés à ne pas faire ces tâches, c'était aussi, on ne veut pas que ce soit les bénéficiaires, les usagers, qui subissent les conséquences de la grève, et s'exprimer à la fois la question de la vocation au métier, mais aussi un prisme souvent... l'univers familial, si c'était mes parents, je ne pourrais pas le faire, donc je me sens obligée de le faire, mais j'ai voté la grève, mais je me sens obligée de faire tous les soins, en fait. Donc, il y a eu toute une pression, je disais, faite par les représentants syndicaux, avec un décalage, puisque souvent, ces représentants syndicaux, et là, on a aussi des rapports de domination qui interviennent, avec des représentants syndicaux qui peuvent être, le plus souvent, dès lors qu'ils ont tant de délégations syndicales, je ne dis pas que ça soit tout le temps, mais par exemple, un des établissements où on a enquêté, le président du syndicat, ce que nous on appellerait le secrétaire du syndicat, c'est un homme blanc de la maintenance, ouvrier de maintenance. Le conseiller syndical qui suit la grève, c'est un homme d'origine haïtienne, mais c'est aussi un homme qui eux, poussaient à ce que ces tâches ne soient pas effectuées, avec une appropriation qui nous a semblé limitée et problématique de ces enjeux de services essentiels. Une autre dimension de la grève, je vais aller vite, qui nous a intéressé, c'est ce qui s'est joué sur les piquets de grève. Je vous le disais, il n'y a pas obligation d'aller sur ces piquets de grève, hein, mais un certain nombre de travailleurs salariés sont sortis sur les piquets de grève, qui les conduisaient souvent à participer à quelque chose qui était complètement inédit pour elles. C'était vraiment un apprentissage de ces pratiques d'action collective. Et il nous a semblé intéressant d'essayer d'analyser ces piquets de grève comme un espace un peu différent, un espace de politisation, où il y a eu des échanges, de la discussion, sur les 15 dollars, mais pas que sur les 15 dollars. Sur plein d'autres enjeux, notamment le rapport à la hiérarchie, le rapport aux familles, hein, comment les familles perçoivent la grève qui est menée. Alors, il était possible, hein, à la fois pour les autres salariés et pour les familles qui venaient, quand elles rentraient dans les résidences, par exemple, de klaxonner au niveau du piquet de grève pour manifester le soutien. Mais est-ce que ça allait au-delà? Et donc, ce qui était aussi raconté dans ces piquets de grève, sur ces piquets de grève, c'est la relation aux résidents, comment ils vivent le fait qu'il y ait grève. Les préposés portaient donc un t-shirt avec la revendication des 15 dollars. Ce qui était aussi plutôt bien pensé par le syndicat pour faciliter finalement. Hein, on va expliquer la grève, on l'explique parce que c'est déjà marqué sur le t-shirt. Ça permet de dire pourquoi on est en grève avec toute une construction d'une présentation de la grève qui est, si vous voulez des soins de qualité, vous ne pouvez pas avoir des salariés sous-payés. Hein, la qualité des soins passe aussi par le niveau de rémunération des salariés. Et pas mal de salariés, on pourrait y revenir dans la discussion, qui nous racontaient, travailleuses, que pour beaucoup de résidents, c'était une découverte de voir le niveau de salaire, l'horaire moyen de ces préposés, hein, comme pour les familles, en fait. Hein, vu aussi le coût, hein, le prix des chambres dans ces résidences privées, en fait. Donc, importance du regard des familles portée sur le mouvement, importance des relations avec les résidents, et il y a même une anecdote où on nous a raconté comme ça qu'il y avait un résident qui avait expliqué que lui-même a été syndiqué et qui soutenait la grève, et donc ça a créé des liens un petit peu différents avec les résidents. Je vais terminer parce que je vois que le temps passe, ça va ? La grève, elle a eu des résultats mitigés. Comme l'a dit Louise, la revendication salariale, elle était très forte. Une seule entreprise, la plus importante du secteur au Québec, Chartwell, a accepté de tenir une négociation collective impliquant plusieurs établissements, essayant de créer les conditions d'une négociation concertée. Ils l'ont fait parce qu'il y a eu occupation de leurs locaux, hein, il y a eu un petit peu plus d'action qui a été menée pour les pousser à négocier. Le mouvement de grève a conduit à certains gains salariaux. Hein, mais il n'a pas permis de voir réaliser la revendication centrale. Donc il y a eu signature d'un certain nombre de conventions où, dans une minorité de cas, ce taux de 15 dollars l'heure sera atteint au premier échelon au bout de la troisième année ou la quatrième année de convention. Alors, quelques gains au niveau salarial, c'est sans doute pas le plus important de la grève. Il nous semble que ce qui est valorisé du côté syndical, mais ce qui nous semble aussi intéressant à analyser, c'est à la fois les conditions de mise en mouvement de ces travailleuses, ce processus d'apprentissage de l'action collective, ce processus aussi qui permet de discuter, de mettre en lumière un certain nombre de rapports de pouvoir qui s'exercent dans ce secteur, dans la profession. En même temps, la grève a aussi révélé les limites de la délégation de pouvoir et de la division sexuée et racialisée aussi du pouvoir dans les organisations syndicales, en fait. Alors, trois pistes pour conclure. Première piste, donc une grève complètement inédite et qui a confronté le mouvement syndical au fait de penser les conditions d'une action collective dans un secteur d'activité sans tradition de lutte et marqué par l'emprise de cette relation de service à autrui. Finalement, qu'est-ce qu'on propose? Ça se retrouve dans d'autres secteurs de service. Mais qu'est-ce qu'on propose comme type d'action qui fasse sens aussi pour les travailleuses du secteur par rapport à la façon dont elles investissent leur travail et dans leur subjectivité au travail? Deuxième idée, la limitation de la revendication à la question salariale, ça a permis quelque part de donner de la force au conflit, à le rendre très visible, à faire passer des messages. En même temps, ça a limité ce que ce conflit pouvait contenir, tout ce qui pouvait se jouer en termes de relations à la hiérarchie, justement, de questions de l'expérience, du vécu, l'expérience pratique de ces femmes assignées à ces emplois et l'expérience à la fois du racisme et du sexisme. Ça, on en discutait hier, ça a affleuré dans des discussions, mais ce n'était pas évidemment au centre du conflit. Et troisième idée, c'est un conflit qui a été construit par le syndicat sans chercher des appuis extérieurs. Contrairement à ce qui peut se faire aux États-Unis dans certains conflits, dans certaines campagnes d'action, le syndicat qui a mené ce conflit au Québec est finalement resté vraiment sur le secteur, sur ce qu'il maîtrisait par rapport aux conventions collectives, la négociation, n'est pas allé chercher des appuis du côté des associations féministes, des associations de travailleurs immigrants, ce qui aurait peut-être permis de construire d'autres alliances et d'éclairer autrement le conflit. Mais on n'a pas eu ce recours-là dans ce conflit. Voilà pour pas trop déborder. Merci de votre attention.